je n'endors pas.
Vous ne le faites pas exprès.
Ma façon d'agir a parfois dérangé certains.
Nous n'avons absolument rien en commun.
Et on reparle de l'épidémie de coronavirus à 7h43 avec vous, Bertrand, et dans les coulisses du pouvoir. Bonjour Bertrand.
Bonjour.
Vous avez tenté de répondre à cette question ce matin. Pourquoi est-ce que ce coronavirus suscite tellement d'angoisse, hein, voire chez certains de la paranoïa avec des pénuries de gel hydroalcoolique ou de masques de protection dans les pharmacies.
Exactement, et bientôt peut-être des scènes de file dans les supermarchés, hein, pour remplir son caddie le plus vite possible, comme si les sirènes anti-aériennes allaient bientôt retentir et que les soviétiques allaient attaquer. Hier, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux émerger comme une vague ce texte d'un médecin et président de l'APSIM, Philippe DeVos, qui effectuait un petit calcul simple. Si le coronavirus était traité comme une simple grippe, eh bien, il y aurait, selon lui, 850 000 personnes infectées en Belgique, 50 000 morts, ça fait froid dans le dos, et une grave crise sanitaire liée à l'insuffisance de lits dans les hôpitaux. Bref, bien sûr, d'autres médecins de l'Institut scientifique de santé publique ont répondu que justement, on ne traitait pas le coronavirus comme la grippe et que donc son scénario était bêtement apocalyptique, j'ai envie de dire ça comme ça, voilà,
on y arriverait pas,
et que c'était pas correct. Mais d'autres médecins encore, comme le docteur Thomas Orban, par exemple, président de la société scientifique, interrogé par Le Soir, société scientifique de médecine générale, pardon, convenait bien que le risque de carence de lits était, je cite, non nul. Voilà. Ouais. Bref, c'est un peu comme des constitutionnalistes. Hein. Vous en mettez trois dans une pièce, vous avez quatre avis. Sauf qu'ici, quand même, c'était pour le bon mot, mais plus on avance, plus sur base de faits, de chiffres, on progresse dans la compréhension des enjeux, des risques, le mot est important, du coronavirus pour la santé publique, le risque qui est passé de modéré à sévère, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.
Bon, si je comprends bien le défi, l'enjeu pour nos sociétés, c'est donc celui de la gestion du risque.
Le risque, oui. La plupart des journaux mettant une photo ce matin d'un homme ou d'une femme portant un masque.
Ah oui, il y a une belle unanimité dans les unes de la presse, effectivement.
C'est assez même monotone, et qui fait face au risque. Et c'est d'ailleurs aussi la une de la Libre ce matin. Les Belges prennent enfin la mesure du risque. Et puis d'ailleurs, explique le journal, les groupes qui conseillent les autorités se basent sur les données du Risk Assessment Group et du Risk Management Group. C'est d'ailleurs toujours mieux l'anglais pour gérer le risque. Ça, vous avez remarqué. C'est d'ailleurs ce qui caractérise le risque. On peut le gérer, car le risque est de l'ordre du calculable, selon la célèbre distinction d'un économiste anglais, Frank Knight. Il distingue le risque de l'incertitude. Les deux sont des manières de faire face aux aléas, mais le risque est quantifiable par des probabilités, notamment. Ce n'est pas le cas de l'incertitude. Or, ce coronavirus, par sa nouveauté, n'est pas encore à ranger dans les catégories du risque, mais de l'incertitude. C'est ça qui génère de l'angoisse ou de la peur, car il nous rappelle que nous vivons dans une illusion de maîtrise complète des choses. Par exemple, les accidents de voiture ou la grippe, vu leur récurrence, sont devenus des risques. On a des statistiques, d'ailleurs, chaque année. Des occurrences maîtrisées, nous vivons avec chaque année les morts de la grippe. Nous les acceptons, ils ne font plus l'objet de réactions sociales, et les médias d'ailleurs n'en parlent que très.
Donc on peut vivre avec le risque, beaucoup moins avec l'incertitude.
Exactement, avec l'incertitude, c'est donc ce qui survient et qui était imprévisible, qui ne faisait partie d'aucun plan. L'attentat terroriste, par exemple, est une incertitude. En tout cas, la première fois. Il suscite une réaction très forte dans la population et dans les médias. Les autorités publiques se doivent de réagir, car l'incertitude, elle peut déstabiliser le système. Réagir en faisant justement glisser l'incertitude dans la case du risque, ce qu'on peut alors maîtriser. Et le terrorisme est devenu petit à petit, lui aussi, un risque. On nous dit d'ailleurs souvent que le risque zéro n'existe pas. Les attentats islamistes ou d'extrême droite font désormais partie du prévisible. Nous avons une tendance sociale à vouloir transformer l'incertitude en risque. Quand un nouveau virus survient, il ouvre donc une ère d'incertitude, on est en plein dedans, on ne sait pas, on ne mesure pas toutes les conséquences. Les marchés détestent ça d'ailleurs, ils plongent, les cartes blanches pullulent, les médias tendent de répondre aux questions qui n'ont pas encore toutes de réponse, ce qui suscite de l'angoisse, ce qui suscite aussi des critiques de la part de certains auditeurs, bien légitimes sur les médias, mais si on n'en parlait pas, on susciterait peut-être encore une angoisse plus grande. En tout cas, ce qui est presque sûr, c'est qu'un jour, qui n'est pas encore venu, le coronavirus va quitter la catégorie de l'incertitude pour entrer dans celle du risque que l'on peut mesurer et que nous croyons maîtriser. Et ce jour-là, il n'y aura plus besoin de faire de chronique sur le coronavirus.
L'amour du risque.
Vous vous souvenez de ça, François ?